Bonjour Victoria.
Bonjour Thierry.
Toujours en forme?
Toujours live. Et donc, en live.
Oui, voilà. T'as fait une version beaucoup plus courte, effectivement. On est toujours en forme, donc on est toujours en live, voilà, exactement. On est mardi, c'est le deuxième jour de cette longue semaine d'entrevues, d'interviews, d'invités. Et puis aujourd'hui, on aurait pu faire à la Julien Lepers pour essayer de vous aider à deviner, même si on a fait un peu de teasing hein, sur l'invité qui nous attend patiemment ici dans le studio. Avant toute chose, avant de découvrir notre invité, qu'on se réjouit justement de découvrir, on vous rappelle que vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit bien évidemment de venir interagir en posant des questions, surtout aujourd'hui parce que je suis sûr que vous êtes toutes curieuses et curieux de pouvoir en savoir plus sur notre invité. Et puis si vous manquez ce live, vous êtes excusé puisque vous pourrez le revoir en replay sur cominmag.ch, en replay dans la newsletter. Mais place à notre invité. Alors on l'a fait façon Julien Lepers. Il a deux téléphones. Il s'en sépare jamais, même sur son lieu de travail. Il est à s'inviter dans tous vos foyers avec le plus grand plaisir pour chacun de nous. Il est même ton.
Il est même, j'ai démarré le journalisme avec lui,
Oui,
c'est dit.
voilà, c'est pour dire.
Ça, j'ai mes lettres de noblesse, ok, c'est bon.
Bon, allez, je te passe le micro. De qui s'agit-il, Victoria?
Darius Rochebain, je pense que vous l'avez découvert. Journaliste à la RTS, et puis le grand maître du TJ, et puis aussi de l'émission Pardonnez-moi, qui est toujours très. C'est une grande leçon d'interview à chaque fois, franchement. On t'arrive même pas à la cheville. Hein. Mais bon, on prend note, on prend note, on prend note.
Bonjour
Donc,
Darius, bienvenue.
Bonjour, bonjour, ça
on va
va?
voir sur la cheville.
Il faut jamais refuser les compliments, vous savez. On dit ceux qui refusent les compliments veulent être complimentés encore plus. Donc, non,
Bon, ça y est,
Ah.
voilà. C'est moi qui voulais faire
Ben,
la
ça me fait plaisir.
cheville. Ça renvoie.
Je passe tous les jours devant le journal de Genève où, en effet, j'étais pigiste de même que Victoria Marchand. Et voilà, c'est des souvenirs. Je ne sais pas très bien. Enfin, l'immeuble est toujours là. Il y a toujours le rez-de-chaussée où il y avait des immenses rotatives, mais il n'y a plus de journal de Genève. Mais il y a d'autres formes de journalisme.
Exactement. Darius, démarrons ce live. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé pendant cette pandémie dans ta manière de travailler? Je pense que quand même, une crise, c'est toujours aussi une opportunité. Et puis là, tout d'un coup, plein de choses ont changé. Raconte-nous.
Bon, ce qui a le plus changé, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire tout à coup un certain nombre de codes télévisuels qui étaient assez stricts se sont ouverts, ce qui ne veut pas dire que les anciens codes ne sont pas restés. On continue à faire de la télévision de manière tout à fait traditionnelle, mais par exemple Skype, on a mis des années avant d'intégrer Skype dans nos directs, et ça s'est fait finalement en quelques jours sous la pression de l'événement. On dit toujours l'événement est roi, et c'est vrai pour tout, c'est vrai dans la manière de le traiter, mais c'est aussi dans la forme et dans la forme technique.
On a vu aussi apparaître l'intérieur des interviewés. C'est toujours, je dirais, c'est la grande nouveauté dans tous les interviews. Il y a ceux qui mettent des bibliothèques, il y a ceux qui ont un seul meuble, il y a ceux qui ont un mur tout seul. Qu'est-ce que ça dit des gens?
Bon, ça dit ce qu'ils ont envie de montrer. Il y a ce destin humoristique qui circulait où vous voyez quelqu'un qui fait juste son petit studio Skype chez lui, du partout ailleurs, il y a des bouts de pizza qui traînent, etc. Mais on fait juste son petit coin. Alors là, je sais pas, voilà, c'est dans l'autre sens. C'est
Ah
comme faire la météo, on se trompe toujours. Là, j'ai les heures complètes de Churchill, je me suis dit que ça, c'est pas mal.
ouais.
Donc chacun, en fait,
Ah
compose
non,
aussi un peu
Churchill,
sa
ça.
bibliothèque.
Bravo, bravo. Je te connais, t'es un pro. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur que la pandémie, disons, touche la rédaction et puis que vous retrouviez finalement avec pas assez de journalistes pour couvrir toute cette période, quoi?
Oui, bien sûr, il y a eu des mesures très strictes assez vite. Séparation par des parois en plexiglas, en régie par exemple, entre le réalisateur et la script qui normalement sont très proches, parois en plexiglas, parois en plexiglas au montage. Enfin, au montage, c'est plutôt qu'on a utilisé la cabine son pour séparer vraiment le plus possible le journaliste du monteur. Partout, évidemment, beaucoup, beaucoup de mesures ont été prises très, très vite. Et il y avait cette crainte, évidemment, qui, heureusement, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, s'est révélée très en dessus de ce qui s'est passé.
Les premières émissions qui avaient vraiment qui étaient très d'information, d'alerte, ont suscité énormément d'émotions. On sentait les intervenants. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose. C'était assez unique pour toi aussi. Tu avais déjà
Oui,
vu ça?
Non, ce qui s'est passé est vraiment unique. Vous savez, en Suisse, malgré tout, même si on a de la peine à se l'avouer parce qu'on a envie de faire partie de l'histoire du monde, en réalité, on a souvent été un tout petit peu à côté. On n'a pas vécu la première guerre directement, pas la deuxième guerre directement. On a échappé au fascisme, on a échappé au communisme. Il y a ce sentiment quand même qu'on était toujours un tout petit peu épargné par la tragédie. Bon, il n'y a pas longtemps, j'étais à Berne avec une réunion d'ambassadeurs. Et au bout d'un moment, quand les discussions s'ouvraient un peu, je comprenais la différence énorme qu'il y avait avec ces pays qui nous entourent. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont payé le prix du sang. Quand vous parlez avec des Russes, avec des Français, avec des Allemands, avec des Italiens, ils vous disent: Ah, mon arrière-grand-père a été tué, ah, mon arrière-grand-père a été déporté, etc. Et ce n'est pas notre histoire. On a eu nos problèmes et on n'est pas complètement épargné, évidemment, mais enfin, on est loin de tout ça. Et là, pour la première fois, vraiment, les gens, mais les gens, c'est-à-dire aussi les journalistes, la rédaction vivait vraiment dans l'histoire. Et ça change beaucoup.
Dans cette période un peu compliquée pour travailler, surtout pour ramener de l'information, la partager le plus possible, est-ce que on se retrouve à être plus attentif à l'exemple qu'on peut montrer? On voit par exemple certains sujets, la perche tendue pour le micro, la distance avec l'intervenant. Est-ce que ça, c'est des éléments qui sont rentrés comme ça tout naturellement dans les façons de faire de tous les collaborateurs, de tous les journalistes, ou ça a pris du temps pour l'inculquer à un maximum de personnes sur le terrain? Parce que justement, l'image est reine et on fait attention, enfin, on est sensible à ce genre de mesures en tant que téléspectateur.
Bah, c'est venu assez vite, c'est vrai. C'est la pression sociale dans tous les sens, hein. Entre journalistes et autres professions, mais aussi entre le public et les journalistes. On faisait des Facebook Live au début où on était trop proche, le présentateur ou présentatrice trop proche du spécialiste. Et c'est les gens qui vous disent: Ah, mais attention, vous nous parlez de distance sociale et vous ne l'appliquez pas vous-même, donc on a éloigné les tables. Il y a tout ce processus. Oui, le regard social change énormément, mais on le voit dans la vie courante quand les gens ont tendance un peu à dénoncer en disant: En bas de chez moi, il y a un attroupement, etc. Alors, c'est le mauvais côté parfois et c'est le bon côté en même temps, une forme de conscience sociale qui est extrêmement forte.
Bah alors, une petite question, parce que certaines perches ont un petit plastique et d'autres n'en ont pas. Alors, j'ai jamais compris qu'est-ce que vous faites une fois qu'une personne a été interviewée. C'est quoi la règle?
Est-ce qu'on change le plastique? C'est ça que tu veux poser comme question.
Est-ce qu'on change le tissu?
Ouais.
Je ne sais pas.
Franchement, il y a eu toutes sortes de, il y a eu toutes sortes de mesures. Par exemple, des gens qui ont fait une quarantaine du matériel, simplement qui ont laissé. Vous allez tourner à l'hôpital, donc vous laissez un certain temps le matériel, ou vous allez tourner à l'hôpital et puis ensuite vous nettoyez ou non le matériel. En réalité, on met le maximum de chances de son côté, mais il n'y a pas de science exacte. Par exemple, on a demandé au professeur Pittet: Qu'est-ce qu'on fait si on va tourner dans l'hôpital? Et il vous dit: Le risque est quasi nul pour le matériel, à moins que quelqu'un vraiment vienne crachoter sur votre caméra. Ou si vous vraiment vous voulez être très puriste, vous poussez votre caméra quand vous rentrez. Mais bon, ce n'est pas le mode de contamination quand même le plus risqué et le plus courant.
La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est le journalisme qui s'est fait pendant cette pandémie. C'est un journalisme, je dirais, où vous avez parlé avec des experts, vous les avez écoutés, on a tous appris de ces experts, on a entendu des hommes politiques. Aujourd'hui, on est un peu en train d'entrer dans une nouvelle phase. On vous accuse un petit peu de. Enfin, on accuse la profession de ne pas avoir posé beaucoup de questions, de ne pas avoir remis en question certains statements qui apparaissaient du jour au lendemain. Quelle est la place, quelle latitude vous aviez pour justement pas être critique, mais disons amener une autre voie que simplement la voie officielle?
Ben, comme je vous disais tout à l'heure, dès lors qu'on est embarqué vraiment complètement dans une histoire, c'est vrai que la distance critique change un peu. Moi, j'ai vécu le 11 septembre, par exemple, en rédaction. C'est vrai que dans un pays neutre où il y a eu très peu de faits terroristes pendant tellement d'années, on parle du 11 septembre très différemment que si on est américain. Les journalistes américains avaient vraiment une vision du 11 septembre très différente quand ils parlaient de la guerre d'Irak. En tout cas, au début, même les plus critiques d'entre eux avaient forcément pas la même attitude que nous en Suisse, de loin, etc. Et là, on est dans une autre logique. On est vraiment partie prenante dans nos vies, dans notre travail de journaliste, etc. Et ça a changé la donne, incontestablement, ça, il faut pas le nier. Mais ça n'empêche pas qu'on fasse notre travail de journaliste, qu'on pose autant que possible les questions. On l'a fait, par exemple, sur les masques. assez tôt, hein, de façon assez régulière, on a réinterrogé les spécialistes en disant, mais vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas plus nécessaire que ça? Donc, oui, le travail critique est resté. Cela étant, vous avez ce chef, vous savez, quand il y a des visites, souvent ils disent, mais qui décide, qui est le chef, qui décide lors des sujets, etc. Et il y a plein d'explications un peu techniques. Mais au fond, le vrai patron des journalistes, le seul patron contre lequel on peut vraiment rien, c'est ce qu'on appelle l'esprit du temps. C'est l'opinion dans laquelle on est tous. Et c'est normal, on la partage, il y a une sorte de consensus. Et on est tributaire de ça dans une crise comme ça, c'est vrai. Et vous voyez très bien ça dans la différence entre les Français et les Allemands, ou entre les Romands et les Alémaniques. La façon de considérer le confinement est différente.
Tout à
Et
fait.
ça, il y a peu de marge là, parce que c'est un peu l'air du temps, l'esprit du temps, qui veut par exemple que la nécessité économique, elle soit très forte aux yeux des Allemands et des Alémaniques, un peu moins du point de vue des Français.
Alors justement, tu me tends la perche par rapport à cette différence de traitement, pas pour l'information, mais plutôt l'appréhension de cette crise. On voit une nette différence entre les Suisses romands et les Suisses allemands. Est-ce qu'au sein des rédactions justement de ces régions, il y a une cohésion, il y a eu des échanges qui ont été plus soutenus que d'habitude? Je sais qu'il y a des échanges de contenu qui se font assez régulièrement, des choses qui sont tournées par nos collègues suisses allemands et qui sont rapatriées à Genève et vice-versa, même pour les Tessinois. Est-ce que durant cette crise, ça a un petit peu changé? Est-ce que ça a permis aussi de mieux apprécier la situation de ces deux régions, franchement, totalement différentes en matière d'appréhension de ce risque?
Oui, mais je dirais que ça a surtout aussi montré les différences. L'exemple classique, c'est cette conférence de presse où Berset est venu un mercredi ou un vendredi, je ne sais plus. On lui a dit, mais en Suisse romande, la question c'était est-ce que le déconfinement ne va pas trop vite? Et la question en Suisse alémanique, c'était est-ce que le déconfinement ne va pas trop lentement? Et typiquement, c'est l'air du temps dont je vous parlais, c'est-à-dire le journaliste, là, il pose la question que de bonne foi il ressent, c'est pas quelqu'un qui lui a dit il faut que tu poses cette question-là, etc. C'est ce que la société dans laquelle il se trouve ressent majoritairement en tout cas. Donc cette différence-là, elle est absolument énorme. Vous savez, le vocabulaire, il est très révélateur. On dit tel État débloque des milliards. Et c'est vrai que dans la vision plus francophone des choses, souvent c'est comme si les États avaient une sorte de coffre magique, puis qu'ils vont piocher des milliards dedans et qu'ils les distribuent, c'est fantastique, c'est génial.
On peut plus.
Les Alémaniques ou les Allemands ont une autre vision. Ils disent, mais attendez, c'est qui ces milliards? C'est soit de l'endettement, soit le contribuable qui va payer, soit très hypothétiquement une relance massive qui va permettre de payer ça. Donc voilà, c'est deux visions du monde et on en est tributaire.
Tout à fait.
Alors,
Mais oui, n'est-ce pas?
oui.
Vas-y.
On a une question de la chatroom de Cédric. Est-ce que vous avez eu peur vous-même à un moment d'être contaminé d'une manière générale? Avez-vous eu peur pour vos proches? C'est une question qui était spécialement adressée, Darius.
Je n'ai pas vraiment eu peur, mais je suis de naturel assez prudent. Vous disiez que j'ai deux téléphones, ben j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui tombe en panne. Et de la même manière, oui, je pense que c'est la logique du curseur. Vous mettez le maximum de chances de votre côté dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire, moi, j'ai continué à faire mes courses chaque jour, etc. Je connais des gens qui essayaient de limiter le plus possible leurs courses, d'y aller seulement une fois par semaine. Moi, je ne suis jamais allé jusque-là. Mais faire attention, oui, il faut faire attention le plus possible. Oui, encore une fois, mettre le maximum de chances de son côté.
J'ai envie de revenir sur cette différence suisse-alémanique, suisse-romande, peut-être parce que j'en suis vivant de l'autre côté. Ce qui m'a vraiment frappé les premières semaines, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait deux pays. Le TJ ne couvrait pratiquement pas les infos de la Suisse alémanique et j'ai regardé tous les jours les deux, tous les TJ pour être dans les trois langues pour voir un petit peu la couverture.
Bravo.
Ouais. Et en Suisse alémanique, c'était exactement la même chose. On ne parlait pas de la Suisse romande. Et franchement, il y a eu un moment où je me suis demandé si on vivait dans le même pays.
Il y a incontestablement une différence culturelle très profonde, vous avez raison de le souligner, donc ça c'est un fait. Et c'est un fait aussi qu'il y avait un tel désir d'information sur ce qu'on vivait ici, sur ce que nous vivions, qu'il y a un petit côté peut-être égocentrique, mais c'est valable dans tous les pays du monde qui ont vécu ça. Et pour nous, évidemment, la question qui commence à se poser maintenant, c'est de plus en plus de parler d'autres sujets que le Covid, mais typiquement, il y a un tel appétit d'information sur ce qu'on vit ici, nous, maintenant, etc., que, et ça peut être un défaut. On a tendance à moins parler de ce qui se passe dans une autre région, dans un autre pays, etc. Mais oui, le fossé, il est apparu sans aucun doute. Il y a pas de doute à ce sujet-là.
Une question d'une internaute qui met le doigt là où ça fait un petit peu mal. Hein. Effectivement, on vient de lâcher le mot, les réseaux, les différentes sources d'informations. Elle pose la question suivante. L'opinion publique mal interprétée et rediffusée change aussi l'avis des spectateurs eux-mêmes? Non, point d'interrogation. Le public, en fait, elle dit, écoute, peut-être plus les réseaux que l'État lui-même ou que le service de l'État ou le service public voulait. Peut-être voulait le dire. Je vais y arriver. Voulait le dire.
Voilà.
Voilà, exactement. Je suis ému parce qu'effectivement, là, la question fondamentale, c'est voilà, le social media versus service public. Comment arriver à faire la part des choses? Parce qu'effectivement, on a vu pas mal de fake news, on a vu toutes sortes de trucs bizarres. Ça a commencé très vite avec des groupes WhatsApp et le service public a dû se battre contre ben, tous ces ragots, tous ces hoax. Comment on gère ça pour encore plus sensibiliser l'internaute, le compatriote à écouter l'info, la vraie, celle par exemple diffusée par la RTS?
Bon, moi, je ne crois pas beaucoup à l'importance des fake news, c'est-à-dire, typiquement, vous parlez des thèses du complot ou autres qui ont circulé, sans doute, mais quand vous regardez la réalité du comportement des gens, les Suisses ont été très disciplinés. Ils ont, dans une majorité écrasante, suivi, si vous voulez, ce consensus national autour de la nécessité de pratiquer les mesures de confinement. Sur la fin, il y a des changements, on a vu les manifs à Berne, évidemment, maintenant on sort un petit peu de la phase la plus critique, donc ça change un peu, mais dans l'essentiel de la phase critique, c'est vrai qu'il y a eu peu de contre-pouvoirs qui se sont exprimés chez les parlementaires, dans la vie publique, etc. Mais c'était un fait. Vous avez pas des pans entiers de la société qui ont dit, ah ben non, moi, pas d'accord, je fais pas ça, j'encours les amendes, je veux pas. En réalité, le consensus est très large. Et je crois qu'on met le doigt là sur la réalité de percevoir les fake news, où souvent les gens, et ça c'est la logique d'Internet, on lit une nouvelle en se disant, tiens peut-être, et on la partage, même si on n'en est pas vraiment convaincu. Sur la chloroquine, moi je connais plein de gens qui se disaient, c'est peut-être vrai, c'est peut-être intéressant, hein, donc je le partage avec tous mes copains, etc. Mais ces mêmes gens, si vous les prenez vraiment à part, puis vous dites, ok, tu es malade maintenant, on va te donner de la chloroquine, tu la prends. On a vu aux États-Unis, il y a eu quelques malheureux qui ont fait des bêtises, qui sont morts, etc. Mais c'est infime, c'est pas ça la réalité du monde. La réalité du monde, c'est que les gens savent très bien que ce qui est diffusé par la RTS ou par Le Monde est quand même plus sûr que ce qui est diffusé sur un site bidon complotiste au coin du net. Et en réalité, Internet, au contraire, corrige beaucoup plus vite que dans le passé ce qu'on appelle les fake news. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup à la force réelle des complotistes.
Le TJ, alors si on revient maintenant je dirais, au comportement média, à la consommation des médias, le TJ a connu des scores staliniens,
Le mot est
franchement
lâché.
hallucinant, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc c'est le retour, le grand retour de la télévision linéaire. J'ai presque envie de dire que peut-être ce qui restera une des grands trends de cette pandémie, c'est, je pense que la génération Z n'avait pas, ne connaissait pas le linéaire, la télévision linéaire, elle a appris à attendre le 19h30. C'est quelque chose, et c'est un grand, je veux dire, c'est un grand, une grande émotion, parce que le temps réel dans des événements, c'est quelque chose qui a une valeur aussi publicitaire. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu, comment est-ce que tu as vécu ces scores, comment tu les interprètes, et est-ce que tu penses que cette façon de consommer la télévision va rester, ou on va à nouveau revenir sur du picorage?
Bon, il va forcément y avoir une forme de reflux, on l'observe déjà dans les audiences. Les audiences tout à fait hors normes qu'on a connues, elles sont en diminution très légère encore. Il y a vraiment un appétit très très grand d'informations sur le Covid. Mais moi, ça rejoint une intuition que j'ai toujours eue, qui est que tous ces modes d'information se surajoutent les uns aux autres. C'est-à-dire que, et c'est vraiment l'histoire ancienne déjà, la télé n'a pas tué la radio, Internet n'a pas tué la télé, et au fond, on se rend compte que la capacité de s'informer, de cultiver son esprit, de se divertir, etc., est à peu près sans fin. Et on l'a vu aussi dans les modes très concrets d'utilisation des techniques. Zoom ou Skype se sont ajoutés encore à d'autres modes de communication. Et c'est le même débat qu'on pouvait y avoir, je ne sais pas, il y a combien d'années, 100 ans, sur le téléphone un peu moins, où on disait, voilà, le téléphone arrive, mais oui, mais le téléphone n'a pas supprimé la vie réelle, les réunions ont continué après le téléphone. Et de la même façon, je suis sûr qu'effectivement, il y aura des traces. Donc, il y aura beaucoup plus de télétravail, il y aura beaucoup plus de réunions Zoom, etc. Ça perdurera. Mais en même temps, tout ce qui était la vie d'avant continuera aussi. Tout se surajoute. Ça, c'est le mystère. Je me rappelle très bien quand j'étais, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand c'était la grande vogue de Canal+, où tout à coup, vous aviez un média qui pariait sur le fait que le divertissement va devenir une industrie massive. Et moi, j'avoue, j'étais plutôt du camp des sceptiques, parce que de façon un peu austère, je me disais, mais c'est pas vrai, les gens, ils peuvent pas. Et en fait, si, on a une capacité, pour ainsi dire, infinie de consommer ce genre de produits. Je vois maintenant dans le train, moi, j'ai pas ces habitudes-là, mais il y a des gens qui, des pendulaires, qui arrivent à regarder à peu près un film par jour. Ils regardent un film en allant, moitié du film en allant, moitié du film en rentrant. Ça leur fait 5 films par semaine. Et en plus, ils regardent Netflix le soir. Et en plus, beaucoup d'entre eux regardaient, ça paraissait tellement improbable pendant cette période de confinement, ils regardaient des vieux Louis de Funès, ils regardaient Le Père Noël est une ordure, etc., en programmation classique. Donc, c'est des gens qui regardaient quoi? 10 films par semaine, moi, j'arrive même pas à en voir un. C'est ça qui est fascinant. Et pour l'information, c'est pareil. C'est-à-dire, on peut regarder, écouter Forum le 19h30 et en plus aller sur les réseaux et en plus pratiquer des modes de consommation extrêmement divers.
Mais on a redécouvert regarder la télévision dans son salon, en
Oui,
famille, ce
en
qui était
famille, oui, c'est très
une
important. Oui.
habitude qui avait disparu. Et ça, c'est quelque chose pour les moins de 20 ans, c'est quelque chose qu'il n'avait
Ouais.
pratiquement plus jamais vécu. Enfin, il l'avait jamais connu, ça.
Et je pense qu'une partie de ça restera. C'est-à-dire qu'effectivement, partager un événement en direct, le commenter en direct, réagir parfois dans l'émotion, dans le rire, etc., ça reste quelque chose d'extrêmement fort. Et on le voit bien avec les collègues des sports. Vous savez à quel point le direct sportif reste quelque chose. Eh bien, le direct info général restera aussi quelque chose d'extraordinairement puissant. Et d'ailleurs, toute proportion gardée, ça s'observait déjà avant la crise du Covid, quand même, chez des gens moins jeunes, c'est vrai. Mais la magie, comme on dit, la magie du direct, mais c'est plus profond que ça, c'est vraiment le désir d'être informé à la seconde, restera. Depuis l'invention déjà des agences de presse, on dit que je crois que c'était telle dépêche qui a annoncé quand Napoléon, je crois, avait perdu telle bataille. Plus vite on est informé, mieux c'est, ça restera éternellement.
Alors justement, à propos d'informations, on a un challenge qui est proposé par un internaute au nom de Marc. Il demande tout simplement, serait-il possible d'essayer de faire une fois un journal télé, un journal du TJ, sans aborder le sujet du Covid-19, histoire de changer les idées des téléspectateurs? Que répondre à une telle proposition?
Il a raison, il ou elle, pardon, qui est-ce qui pose
C'est
la question?
Marc qui nous
Marc.
pose la question.
Marc, bonjour, bonsoir, vous avez tout à fait raison. Et on essaye vraiment, on avait notre réunion tout à l'heure, Bernard Rapin, notre électeur en chef, lançait la discussion. On se disait qu'effectivement, il faut essayer absolument de varier les sujets. On ne peut pas faire éternellement des journaux 100% consacrés au Covid, même si on essaye de plus en plus de varier. Ce week-end, par exemple, on essaiera de varier les sujets. Mais c'est vrai que ça a pris une place énorme. Cela dit, il faut toujours se méfier. C'est comme les fake news. Théoriquement, on dit, ah, les fake news, c'est dangereux. Dans la réalité, les vraies fake news qui commencent à être dangereuses, elles sont heureusement très rares. Le journal télévisé, souvent, on dit, ah, j'ai envie qu'on parle d'autre chose. Et puis, malgré tout, on a envie qu'on. C'est comme quand les gens vous disent le journal des bonnes nouvelles. Vous savez, c'est cette idée qui revient tous les ans. Là.
Ça ne marchera pas.
Comment?
Ça ne marchera jamais,
Ça
Jean,
marche
les
pas.
bonnes
Ben
idées.
oui,
Est-ce que tu le
ça
regardes?
marche pas. Parce que malgré tout, on n'a pas tellement envie de jouer avec ça. On n'a pas tellement envie de jouer que ça avec l'info. On veut ce qui se passe dans le monde et en Suisse. Et on n'a pas envie d'artifice.
Il y a une internaute qui nous dit, eh bien, j'espère que les gens sont contents de ne pas avoir dit oui à non bilag, finalement.
Voilà, tu vois, service public.
Mais vous savez, j'aimerais rajouter une anecdote parce que je sens maintenant, et c'est Victoria qui le disait, vous avez raison, monter cette critique de dire, ah, mais au fond, est-ce que vous n'avez été que les perroquets du pouvoir, les perroquets de l'État à un moment donné? Non, il faut se rendre compte qu'il y a un travail journalistique, même quand on est tributaire de spécialistes, quand vous avez un grand spécialiste des épidémies qui vous dit, maintenant, il faut confiner, c'est délicat quand vous êtes petit journaliste généraliste, lui dire, ah non, à mon avis, c'est pas comme ça, on ne peut pas faire ça. Mais l'esprit critique est quand même là. Je peux vous dire, par exemple, pendant au plus fort de la crise, on avait une ministre cantonale qui, devant moi, a appelé son état-major pour dire: mais combien on risque de morts? Et son état-major a articulé au téléphone un nombre de morts qui, moi, m'a paru complètement délirant pour son canton. C'était plusieurs milliers pour un seul canton romand. Eh bien là, quand vous êtes journaliste, vous vous dites quoi? Vous vous dites: est-ce qu'on donne l'info? Et ce n'est pas vraiment de l'info, parce que ce sont des modèles, et puis en réalité, ces états-majors, ils travaillaient sur plein de modèles en même temps. Et si vous voulez faire du sensationnalisme facile, bien sûr, vous pouvez donner l'info. Vous pouvez dire: ah, dans le canton de Vaud, dans le canton de Neuchâtel, on pense qu'il y aura des milliers de morts, etc. Mais ce n'est pas de l'info, c'est bidon. Et donc, moi, je ne l'ai pas donné, par exemple. Et ce type de réaction-là, on a plus ou moins les bons réflexes d'un jour à l'autre. L'info, c'est un jour chasse l'autre. Mais ce type de réaction-là fait que quand même, vous continuez à exercer un esprit critique, même dans des domaines où, évidemment, vous avez un regard quand même très général.
Alors, justement, à propos de sensations, de sensationnalisme, que penser, je pense que tu as quand même un regard peut-être critique sur nos voisins, je pense à nos copains français, pour ne pas les citer. Est-ce que d'autres pays sont source d'inspiration, de critique, de comparaison? Comment tu vois le traitement de l'info durant cette crise, justement par tes collègues européens?
Je suis frappé de voir à quel point ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les mentalités. Les mentalités sont vraiment très, très, très diverses en Europe, quoi. La discussion sur le monde d'après, c'est fascinant. Quand vous avez des gens très pragmatiques, très terre à terre, qui traitent ça comme si c'était une crise purement sanitaire, certains gouvernants, même Madame Merkel par exemple, hein, très froid, très technicien, qui de manière scientifique, dit: voilà, on va sortir de la crise et puis ensuite, ben, l'économie va reprendre comme avant et c'est tant mieux. Et à l'autre extrême, des gens comme le président Macron qui dit: on réfléchir à un monde tout différent, plus rien ne sera jamais comme avant, etc. C'est fascinant quand même. En 2020, on est combien d'années après on célébrait l'anniversaire de l'Europe qui était ça, et en même temps, le génie des nations reste tellement différent.
Moi, ce qui me stupéfie à chaque fois, c'est tous ces spécialistes qui sortent d'on ne sait où. Dès qu'il y a un problème, t'en as 150 000. Comment vous les sélectionnez? Parce que franchement, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui travaillaient sur les épidémies en Suisse, hein. C'est hallucinant.
Bon, alors d'abord, vous avez les vrais spécialistes et puis vous avez ceux qui sont un petit peu moins spécialistes quand même, mais qui se
Comment tu
rapprochent
t'es
un peu de la
trouvé?
spécialité. Après, il y a eu des écoles, hein. Il y a les catastrophistes, les moins catastrophistes. Et c'est vrai que si vous voulez faire l'exercice maintenant, vous pouvez vous amuser à aller chercher la prévision d'un tel et d'une telle et dire: ah, mais vous, vous aviez dit qu'il y aurait 30 000 morts, ah, mais vous, etc. Il faut se méfier un peu de cet exercice-là parce que c'est facile et en même temps, chacun pourra vous dire: oui, mais j'avais dit ça s'il n'y avait pas eu les mesures de restriction. Or, il y a eu les mesures, donc j'avais en partie raison. Donc, il faut garder quand même une petite marge d'indulgence. Moi, j'aime bien l'indulgence. Si on peut en bénéficier, tant mieux. Mais il faut essayer d'être indulgent aussi pour les autres et puis considérer que il y a un droit à l'erreur. Il y a aussi une façon d'interroger les spécialistes. C'est vrai, si vous tombez vous-même comme journaliste dans le travers de leur dire qu'est-ce qui va se passer, souvent, c'est mauvais parce que faire de la futurologie, faire de la prédiction, c'est dangereux. Et souvent, ce n'est pas le job d'un épidémiologiste. Mais en revanche, dire ce qui se passe, donner les bons conseils sur là où on est maintenant, ça, c'était notre travail et ça continue à l'être.
La phrase de Nouria Gourité, juste je finis avec ça, des emplois, enfin des chômeurs ou des morts, ça a été un des résumés, je trouvais, les plus hallucinants qu'on ait entendus. Est-ce que tu gardes cette phrase aussi en mémoire? Moi, ça m'a stupéfait.
C'était vraiment, oui, c'était vraiment saisissant, absolument. Et c'était intéressant parce que c'est moi qui l'ai interviewé, c'était pendant le Facebook Live. Et vous voyez comment même une responsable d'État, elle se fait gagner par l'ambiance, par l'émotion, etc. Parce que un peu avant, elle a fait une première intervention dans le journal, elle était un peu plus froide, disons. Et puis là, l'émotion a gagné. Et là aussi, évidemment, si a posteriori, vous direz, oh, c'était peut-être excessif, trop émotionnel, etc. Il y a des gens qui pensent, hein, pour finir, il n'y a pas, entre guillemets, pas tant de morts que cela, même s'il y a énormément de morts et ça reste tragique. C'est là aussi où il faut sans arrêt replacer les citations dans leur contexte. Mais ce qui est sûr, c'est que les crises grandissent les gens. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, vous parlez de Nouria Gourité, je pourrais vous citer plein d'autres exemples. Je ne vais pas citer d'autres noms parce que parfois, ce n'est pas très flatteur. Mais
Berset, sa phrase, il a eu des phrases
oui,
célèbres, c'est il
absolument.
restera dans l'histoire.
Et
C'est
sur des
vrai. Mais
t-shirts.
je disais,
T-shirt.
Il y a un très bon historien de la Première Guerre mondiale, son nom m'échappe maintenant, qui a fait une interview il y a quelque temps en disant les, tout à coup, la parole des chefs redevient importante. Et c'est vrai que, typiquement, la parole des conseillers fédéraux, pendant cette crise, elle est redevenue tellement importante. On guettait chaque propos d'un conseiller fédéral, alors qu'il y a encore 3 mois, souvent, une conférence de presse du conseil fédéral, ça ronronnait un peu. Donc la crise, incontestablement, révèle les gens. Hein. Et les journaux, et les journalistes, il y a plein. Je ne sais pas si vous êtes frappé, des sites comme ID News, etc., qui ont fait du bon travail, mais je pourrais citer comme ça beaucoup de
On
confrères et
l'a vu
collègues dans.
vendredi dernier, Serge Michel dans notre live, donc voilà,
Voilà.
il a
Mais c'est
l'occasion.
vrai, dans tous les médias, tout à coup, ça a révélé des personnes, des spécialistes. Donc ça, c'est aussi un aspect positif.
Peut-être une question en forme d'ultime question. On vient de parler justement du Conseil fédéral. Est-ce que le service public a un accès à l'information privilégié versus les autres médias, les autres acteurs de l'information? Est-ce que justement en période de crise, les liens sont plus resserrés entre la mission du service public, les informations dictées et distillées par l'ECF? Ou ça n'a rien changé par rapport à ce qui se faisait avant.
Disons, là, ce qui était frappant, c'est évidemment le volume, parce qu'il y avait souvent 2 conférences de presse importantes par semaine. Et là, vous sentez vraiment toute la machine de l'information qui fait que le conseiller fédéral, souvent, il donne 3 interviews dans chacune des 3 langues. Et puis ça, multiplié par plusieurs médias de la SSR. Donc, tout à coup, on a vraiment l'impression, effectivement, d'une machine étatique. Mais dont on ne fait pas partie au sens propre, c'est-à-dire on reste des journalistes avec un esprit critique libre, et c'est important de garder ça en même temps. Et ça se passe assez bien en Suisse quand même, je veux dire, sans faire du chauvinisme, mais c'est vrai que la collégialité, le fait qu'il y ait plusieurs partis qui gouvernent ensemble, le fait qu'on ne soit pas dépendant d'un seul pouvoir central, ça change énormément, vous savez. Moi, je donne toujours cet exemple par rapport aux collègues français, par exemple. Dans une chaîne publique, si vous vous mettez mal avec l'Élysée ou avec Matignon, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, malgré tout, vous risquez tôt ou tard d'en subir un petit peu des effets. Prochaine nomination, prochaine, etc. En Suisse, vous avez 7 conseillers fédéraux venant de partis différents, tout ça se corrige un petit peu, c'est quand même une toute autre logique. Et moi, j'ai vécu des scènes, pas pendant le Covid, mais avant. Vous pouvez, dans une certaine mesure, vous fâcher comme conseiller fédéral. Moi, j'ai eu l'exemple du conseiller fédéral qui n'a pas aimé la question, elle a pris son oreillette, elle l'a jetée comme ça. Et elle a dit j'arrête. Bon, elle arrête, c'était une interview préenregistrée. Hein. Et puis, dans l'après-midi, c'est avec ses conseillers de communication, ils ont réfléchi, ils ont dit bon, ben, on va revenir. Voilà, ça montre quand même, et on a réenregistré l'interview normalement dans l'après-midi, quelques heures après la première version. Franchement, je pense qu'il y a peu de pays où ça se passe comme ça. Parce qu'en général, si on en arrive à ce degré de tension, vous passez un mauvais quart d'heure. Là, il y a ce côté un peu plus bon enfant. Un peu plus, oui, consensuel, où vous pouvez vous énerver, mais finalement la raison l'emporte.
Alors, dernière question. Alors, que retiendras-tu? Une phrase, un moment, une émotion de cette période? Qu'est-ce qui restera dans ton souvenir?
Bon, peut-être c'était un reportage sur vous savez, au nord d'Italie, les gens mouraient vraiment seuls parce qu'il y avait tellement de monde aux urgences et aux soins intensifs, surtout que on ne pouvait même pas faire venir les familles pour dire au revoir à leurs morts. Et donc, les Italiens avaient fait des systèmes d'iPad ou autres pour que les gens puissent dire adieu à leur famille quand ils étaient encore en état mental de le faire. Et en Suisse, heureusement, on n'est jamais arrivé à ce stade-là. Mais quand même, nous, on a fait un reportage, vous savez, sur une mère, par exemple, qui parlait par FaceTime, elle est décédée entre-temps, avec sa fille. Et là, tout à coup, voilà, vous êtes vraiment, quand je disais, vous êtes immergé dans l'événement. Là, vous y êtes, parce que c'est vraiment l'hôpital, là, en Suisse romande, tout près de la tour de la télévision. C'est évidemment, malgré tout, autre chose. Et c'est là où on voit la proximité. Vous savez, c'est une tarte à la crème de notre métier de journaliste. On dit la proximité, c'est important. Oui, c'est important. C'est vrai. Vous ressentez très différemment ce qui se passe ici que ce qui se passe lointain, malgré tout. Même si, évidemment, le 11 septembre nous a touchés. Ma mère me parlait de l'assassinat de Kennedy. Vous savez, pour toute une génération, le jour de l'assassinat de Kennedy, ça restait dans la mémoire, bien sûr. Mais malgré tout, c'était loin. Là, c'était chez nous.
Et c'est partout.
Ah ouais, pas tout
Voilà.
peut-être.
Merci beaucoup pour ce temps
Merci
partagé, Darius. C'était
Merci à vous.
franchement très très intéressant.
Vous avez un super studio, hein.
Vous avez ça?
Impressionnant.
On va pas comparer les moyens techniques. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de cet aspect-là. C'est quelque chose sur lequel on invite les auditeurs à prendre un peu plus d'attention sur les différents programmes qui sont proposés justement par la RTS. Je trouve très complémentaire, et ça, c'est pas du tout pour faire du passage de pommade, de voir effectivement les usages du live venir se greffer sur la télévision linéaire. Peut-être, allez, je pose quand même la question. Comment c'est perçu par les intervenants que tu invites justement durant ces lives? Est-ce que, alors je suis désolé pour la question, la prise au sérieux est la même que si ça se passait en télévision? Quel que soit le support, en fait, les gens s'en fichent et prennent tout aussi au sérieux le traitement d'un sujet qui peut, par exemple, générer de l'interaction sur un Facebook Live versus un TJ, par exemple.
Bah, absolument, les supports s'ajoutent les uns aux autres, ils se complètent les uns aux autres. J'ai honte de le dire, mais parfois je crois que l'invité ne sait plus très bien en réalité. On lui dit, on lui ment pas, mais souvent l'invité, il vient, il ne sait pas très bien si c'est de l'antenne, rts.ch, le site, la page Facebook de RTS Info. Et pourquoi ça? C'est pas parce qu'il est confus, c'est parce qu'en 2020, souvent, un petit extrait d'une minute sur un Facebook Live peut avoir tout à coup plus d'écho que ce qui passe dans dimanche soir. Voilà, tu parlais, Victoria, vous parliez de la petite phrase de Nouria Gorité, c'était pendant le Facebook Live, par exemple.
Oui.
Mais tout à coup, et c'est là le génie, c'est là où le génie du net rejoint le fond de la qualité journalistique, c'est que ce qui est de qualité du point de vue de l'info, parfois aussi bien sûr de l'émotion, va tout à coup avoir un écho, quel que soit le support. Et vraiment, on l'a ressenti encore plus dans cette crise.
Parfait. Excellent. Merci beaucoup,
Merci
Darius.
à vous, hein.
Et puis,
Et puis, je ferai la visite de la bibliothèque complète autrefois, alors.
voilà, moi je suis dans ma cave pour ma part, donc
Ça va.
j'ai très peu de lecture. On va te laisser retourner à une activité normale.
À
Et puis,
bientôt.
à très bientôt, Darius. Et puis, Victoria, nous, on se retrouve demain, 15 h. C'est pas fini les Comin Mag Live, hein. Non, non.
Attention, jamais.
Ça
C'est
finira
comme les
jamais.
TJ, c'est tous les jours.
Exactement, et c'est quasiment du linéaire, puisqu'effectivement, demain, ça sera aussi à 15 h.
On a fait
Comme.
l'inverse, nous aussi, on a recréé le linéaire sur le
Ouais,
web.
je réalise qu'on a copié effectivement des recettes qui fonctionnent. Portez-vous bien, et puis notez donc attentivement la date de demain, 15 h. C'est comme ça, du lundi au vendredi, Comin Mag Live. Et puis, ben, vous avez le droit de revoir tout ça en replay, de le partager, de le commenter. On sera très content de voir tout ça sur les différents réseaux. À bientôt, Victoria.
À bientôt, à demain.
Et portez-vous bien.